La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Oui, et comment aider les entrepreneurs à rebondir après un échec, parce que oui, on monte mais on peut aussi se planter. Et c'est la solution du jour, Dora, c'est une association qui s'appelle les Rebondisseurs Français.
Et leur objectif aux Rebondisseurs Français, c'est changer le regard que l'on porte sur l'échec en France, libérer la parole, faire du rebond une force plutôt qu'une faiblesse. L'association propose une aide et des outils pour tous ceux qui veulent se lancer ou se relancer dans l'entrepreneuriat. Leur credo, apprendre de ses échecs sans en avoir honte. Bonjour Isabelle Saladin.
Bonjour.
Vous êtes donc la cofondatrice de ce mouvement, les Rebondisseurs Français. Alors votre association, elle a bientôt 2 ans. Vous avez 700 membres. Il y avait et il y a encore aujourd'hui besoin de libérer cette parole sur l'échec.
C'est le vrai postulat de départ en fait. Moi-même, chef d'entreprise, entrepreneur, j'en suis à ma 3e structure. La première n'a pas eu une fin comme je l'avais imaginé dans les plans en l'occurrence, où j'ai été fichée 0,40, dépôt de bilan, caution personnelle, donc l'histoire est vécue.
Ça veut dire des problèmes financiers qui vous
ça
ont
vraiment bloqué. Des problèmes financiers et surtout un fichage avec une difficulté à recommencer en fait, à se relancer dans l'entrepreneuriat. Dû à un système qui bloque beaucoup d'énergie au final. Et en faisant beaucoup d'allers-retours aux États-Unis et en France, alors que je suis très chauvine quand même, je trouvais ça dingue que là-bas, on mettait ça en avant comme une valeur. Ils appellent ça l'expérience. Et en rentrant chez moi, je voyais tous ces entrepreneurs montrer du doigt et plutôt appelés losers, on va dire, que personne d'expérience pour aider au changement. Et c'est là où, à 4 cofondateurs d'entreprise, à 4 entrepreneurs, on s'est dit mais si nous, on ne bouge pas. Sinon, on n'assume pas la vérité, en fait. Qu'être entrepreneur, c'est aussi se planter. Donc, rebondir, les choses ne changeront jamais.
Alors, comment vous les aidez? C'est quoi les outils que vous donnez, justement?
Alors, il y a de l'aide, il y a de l'anticipation, parce que l'anticipation des signaux faibles, c'est un vrai sujet aussi. C'est aussi un rebond, hein, d'anticiper et de repartir en avant.
Au moment où on monte la structure, il y a des signaux?
Il y a des signaux faibles, assez connus dans d'entrepreneurs. Et surtout, en fait, dans les outils, déjà, il y a une plateforme d'échange de tous les entrepreneurs, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient PME, qu'ils soient start-up. On a des start-up qui nous rejoignent en disant « je ne me suis pas encore planté, ça peut arriver ». Donc du coup, chercher aussi l'inspiration, l'échange. Dans la plateforme, le réseau social qu'on a créé, il y a beaucoup d'échanges sur « je vois 2-3 signes, est-ce qu'un peut m'aider ?» Et ce qui est incroyable, c'est le retour des autres chefs d'entreprise qui disent oui tout de suite, bien sûr, parce que les langues se délient, il n'y a pas de tabou en fait chez nous.
Donc c'est un échange entre des chefs d'entreprise déjà établis et celles et ceux qui sont en train de monter
absolument
leur
structure. Absolument pas, entre toute la communauté d'entrepreneurs qui peuvent être des personnes qui sont déjà plantées, d'autres qui ne sont pas encore plantées, d'autres qui connaissent la valeur parce qu'ils peuvent être étrangers aussi, qui viennent sur la plateforme. C'est aussi un réseau très drôle, ce qui n'était pas prévu, d'échanges business, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont trouvés alors qu'ils ne se connaissaient pas, mais qui partagent des valeurs communes sans se mentir. L'idée, c'est vraiment sans se mentir.
Donc, aucun tabou.
C'est la vérité, en fait. Il n'y a aucun entrepreneur à succès qui ne s'est pas planté. Je pense qu'une bonne fois pour toutes, il faut le dire, il n'y en a pas. Et c'est important, planter de rebond, planter en pivot, planter complètement. Il y a plein de choses. L'autre chose qu'on aide aussi, pour laquelle on aide, pardon, c'est qu'on a trouvé des outils. On cherche beaucoup d'outils pour anticiper, par exemple, une ligne d'avocat gratuit pour poser 2-3 questions. Guide des blancs de pratique juridique pour éviter d'être comme moi dans une situation qui peut être compliquée à la première structure. On a aussi discuté avec beaucoup de Harmonie Mutuelle, qui est notre partenaire, qui aide aussi au niveau assurance moins cher, qui couvre tout l'entrepreneur, quelle que soit sa situation. Et on a créé comme ça plus de, aujourd'hui, on est à 40 outils différents pour les entrepreneurs dans l'association. On leur donne aussi beaucoup la parole, parce qu'on est beaucoup sollicités. Que ce soit pour les conférences d'école, ce qu'il faut commencer assez tôt, à changer
justement,
un peu les cultures.
Justement, le rebond, c'est un état d'esprit quand même. En France, on l'enseigne pas aussi. C'est quelque chose qui passe par l'école et par les plus jeunes. Vous faites quoi, vous, à ce niveau-là?
Déjà, vous avez raison, parce qu'il faut commencer à rebondir dès l'école. Hein, ça peut tous nous arriver. On intervient à travers des témoignages réels et surtout des échanges. Il ne faut pas nier le rebond et l'échec. Donc, c'est pas non plus un but en soi. Hein.
Des témoignages, des échanges. Riyad, je suis sûre que ça vous parle.
Ah oui, ça me parle complètement. Mais je partage complètement les propos d'Isabelle. Déjà sur l'échec. L'échec, il n'y a pas un entrepreneur à succès qui vous dira que tout a été pavé de bons résultats et qu'on a atteint le succès comme ça. Des échecs, on en a tous les jours en tant qu'entrepreneur. Il y en a des fois, ils sont fatals. Il y a des fois, c'est terminé. Et puis, il y a des fois, on arrive à se remettre en question. Et j'aurais même tendance à dire que... Alors ça, je partage vraiment la vision américaine là-dessus, où on a tendance à dire que quelqu'un qui s'est planté, c'est quelqu'un qui ne refera pas la même erreur, déjà.
Oui,
et
il
donc,
va tirer
si vous avez
l'humilité
et l'intelligence de le reconnaître, ben, c'est quelque chose que vous n'arriverez... Enfin, en tout cas, vous prendrez 2 fois plus de précautions au coup d'après. Donc oui, valorisez, bravo à vous. En tout cas, c'est une très très belle initiative. Quoi.
Merci. Mais on a été surpris aussi par l'accueil, en fait. C'est-à-dire qu'on voyait, parce qu'on l'a tous vécu, mais que 700 personnes nous rejoignent en 18 mois, Ça a été assez rapide. D'ailleurs, on appelle tous les entrepreneurs à rejoindre l'association, qui est vraiment qu'une association.
Même
en
les
1900.
Grosses entreprises, d'ailleurs.
Ah bah, toutes, au final, parce que surtout les grosses également, parce qu'elles ont besoin de se transformer très très vite dans le contexte actuel. Et quoi de mieux se transformer qu'avec une personne qui a rebondi et qui a déjà créé une entreprise pour aller vite, prendre des risques, prendre des responsabilités. Donc là aussi, embaucher une personne qui est en plein rebond, c'est une des clés incroyables du développement d'une entreprise et de son pouvoir de transformation.
Et le fait d'échanger sur votre plateforme, quel est l'état d'esprit général qui se dégage ?
Alors c'est assez marrant parce qu'au début c'est un peu timide, parce qu'évidemment on est en France donc on n'a pas trop l'habitude.
Bon, on y va doucement quoi.
Mais dès que ça part,
dès
qu'on voit,
mais ça va pas du
tout. Il y a eu des jours meilleurs.
Mais les langues se délient très très vite, surtout quand on voit qu'on est entre, alors le mot pair, P-A-I-R-S, au sens très large, et qu'il n'y a pas de jugement et il n'y a que des solutions. Au final.
Il n'y a pas de jugement, il n'y a que des solutions. C'est ce que vous nous dites, Isabelle Saladin. Vous êtes la cofondatrice des Rebondisseurs Français. Bah vous aussi, vous nous donnez des nouvelles.
Ah bah, bien sûr, je vais vous en donner. Et bienvenue à tous.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous dans La France Bouge. Gros plan sur la sécurité dans nos villes. Drones, caméras sonores, balises communicantes. Des entrepreneurs français ont inventé des solutions. C'est le dossier du jour. Et ce sera juste après le journal de 13h.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France Bouge, seconde partie. On parle sécurité dans La France Bouge aujourd'hui, c'est le dossier du jour. Toute une série d'innovations sont lancées sur ce sujet, l'une des préoccupations des Français. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Iyad Boulanoir. Vous êtes le fondateur du compte Nickel et de la méthode Boulanoir. Dora Nana, qui m'accompagne toute la semaine, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Et bonjour Nicolas Demarché.
Bonjour.
Vous êtes le premier intervenant de ce dossier du jour. Vous avez 26 ans, vous êtes le cofondateur de MyKeeper. MyKeeper qui s'adresse aussi bien au grand public qu'aux administrations. Vous avez identifié 4 situations d'urgence. Incendie, attentat, catastrophe industrielle, catastrophe naturelle et personne ne sait vraiment comment réagir face à ces situations. Et vous, vous avez inventé une balise communicante, c'est ça ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est la balise PPMS Athéna. C'est un objet connecté où on va équiper en fait l'ensemble des enseignants d'une école et qui va permettre, avec une situation donnée, de répondre à des cas d'urgence.
C'est quoi en fait, c'est un petit... Vous l'avez apporté
alors,
qu'on puisse la regarder ?
La voici.
Voilà, regardez. Donc ça, c'est la petite balise, la mini-balise que l'on peut voir là en direct sur Europe1.fr. Donc elle est noire, c'est à la taille d'un petit boîtier, d'une mini télécommande.
Tout à fait.
Et donc, par exemple, un enseignant voit qu'il y a une intrusion dans sa classe ou un danger immédiat. Là, elle appuie sur le bouton SOS, c'est ça ?
En fait, elle va appuyer pendant 3 secondes sur le bouton SOS de la balise. La première action, c'est qu'il va y avoir un retour sonore. Hop ! Je viens d'envoyer une alerte. C'est
normal que ça sonne. Mais le terroriste peut l'entendre.
Donc ça vibre et ça sonne. C'est pour prévenir l'ensemble des enseignants équipés qu'il y a une alerte. Vous avez un petit bouton sur le côté pour lui dire de se taire. Si vous voulez, vous appuyez devant le micro.
Oui, mais si la personne est déjà introduite dans l'établissement.
Alors, c'est à ce moment-là qu'on déclenche. En fait, je suis monsieur Durand, classe de CM2. Je vois qu'il y a une personne qui est cagoulée dans la cour de récréation.
Ah, d'accord. Donc, il n'est pas dans ma classe. Tout je le vois à l'extérieur.
J'appuie sur le bouton SOS. Et c'est à ce moment-là que l'ensemble des balises qui sont installées dans l'école vont sonner. Avec un message parlé, alerte intrusion.
Okay.
En parallèle, on a des contacts d'urgence, la mairie, la police municipale qui vont recevoir un SMS qui les prévient de l'alerte. Et en dernier lieu, on a un opérateur de sécurité qui va rappeler l'objet connecté qui a envoyé l'alerte pour qualifier la situation.
Donc là, l'opérateur de téléassistance va décrocher automatiquement la balise.
Tout à fait.
Et il va se mettre à écouter ce qui est en train de se passer dans l'école pour voir un petit peu si le danger est immédiat, pour entendre les bruits, les sons qu'il y a autour de l'enseignant.
Vous avez tout compris. En général, on identifie plusieurs types de situations. Le silence total dans la classe avec des bruits de chaises. Ben, on comprend qu'en fait, l'enseignant est en train de se cacher avec des enfants et c'est une alerte qui est tout de suite relayée vers les forces de l'ordre national. Si, par exemple, on entend de l'agressivité au travers de la balise, on sait que c'est potentiellement un parent d'élève qui est en train, qui fait signe d'agressivité face à l'enseignant. Et du coup, il doit y avoir un relais vers la police de proximité, la police municipale. Et dernier cas d'usage, voilà les opérateurs.
Bonjour, ici l'équipe CDT Sécurité. Nous avons reçu une alerte de la balise numéro 1. Pouvez-vous me confirmer que c'est bien une démonstration ?
Pour de coup, c'est voilà, bien une c'est... démonstration en direct sur la radio. Je vous remercie pour votre appel.
Merci, voilà. Donc,
au revoir.
Bon, bah, on voit que ça marche, hein, c'est très efficace. Là, dans le studio, tout se passe très bien, il n'y a pas d'intrusion, tout va bien. Donc, on reçoit il reçoit le SMS. Là, il récolte des informations, hein, l'opérateur de télésurveillance, pour les transmettre à la police si le danger devient immédiat, ou à la police de proximité s'il s'agit, par exemple, d'un parent un peu agressif. Vous avez déjà convaincu des établissements scolaires ?
Tout à fait. On a lancé le produit en 2017 et on a équipé 3 mairies, dont une grande mairie, celle laquelle de la ville de Chambéry, où on a installé plus de 350 petites balises Athéna. L'année, en 2018, c'est 33 nouvelles mairies qui ont rejoint l'aventure MyKeeper, et l'année dernière, plus de 70. Donc aujourd'hui, on a plus de 5000 enseignants équipés en France, et près de 500 écoles qui sont équipées du dispositif.
Et il y a eu des interventions ?
Il y a eu 5 interventions réelles, qui sont à chaque fois, je suis désolé pour les parents, mais des parents d'élèves agressifs, qui sont très agressifs.
Ils réagissent comment en voyant la police de proximité débarquer
En général, ça y est quand même tout de suite. Mais c'est vraiment ce relais en quelques minutes d'intervention des forces de l'ordre qui calme le jeu. Et de temps en temps, des parents se font embarquer. Ça peut arriver.
Riyad, notre coach.
En tout cas, c'est super. C'est une belle évolution. Il n'y a que les mairies, uniquement les mairies aujourd'hui que vous visez, uniquement les...
C'est une très bonne question. On essaye d'avoir beaucoup de focus. Quand on crée une société, on a souvent un produit qui peut répondre à de nombreux marchés. Mais il faut savoir garder du focus sur un marché. Nous, on a fait le choix d'être celui des écoles. On veut devenir leader de la sécurisation des écoles dans les 5 prochaines années. Après, on répond également à d'autres des marchés adjacents. On a remporté un appel d'offres et on équipe aujourd'hui près d'une vingtaine de départements, des caisses d'allocation familiale de 20 départements, de cette petite balise contre les agressions cette fois-ci ou des chutes.
Des travailleurs isolés.
Vous avez tout compris.
C'est-à-dire là, avec les caisses d'allocation familiale, vous protégez les personnes qui font des contrôles de vérification dans des foyers, des choses comme ça.
Tout à fait.
Parce que là aussi, il y a des risques d'agression.
C'est ça. Sur des contrôleurs, on prend l'exemple des contrôleurs allocataires, ce sont des personnes qui se déplacent au domicile des gens pour vérifier qu'ils ont bien le bon nombre d'enfants, etc. Et c'est des situations qui peuvent mal tourner.
Pour lutter contre des fraudes aux allocations familiales. Et là aussi, vous avez équipé donc 19 départements français.
Tout à fait.
Dora, les Français et la sécurité, justement, donc là on est à la veille des élections municipales et il y a un sondage qui nous dit un peu comment on se situe par rapport à la sécurité.
Oui, à moins d'un mois justement de ces élections, selon notre sondage Europe 1 BVA qui date du 13 février, donc sondage assez récent, eh bien la sécurité reste la préoccupation principale des Français. 36% des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage donc estiment que la sécurité devrait être la première préoccupation de leurs élus devant les impôts locaux et la protection de l'environnement. Et ce sujet, il inquiète particulièrement les seniors, 44% des 65 ans et plus. À noter aussi que ce chiffre monte à 45% chez les Franciliens. Et pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver le sondage complet sur notre site europe1.fr.
Alors, Dora disait que ça intéresse particulièrement les seniors, mais il fallait y penser quand même de doter comme ça d'une balise de surveillance. Les enseignants, pourquoi les enseignants ?
Alors en fait, ça a été une demande du maire de notre village, à la suite de parution de Bar-sur-Loup, un petit village de campagne dans les Alpes-Maritimes, tout à fait, qui a rencontré cette problématique. En fait, c'est dans le cadre d'un PPMS, un plan particulier de mise en sûreté que doivent avoir chaque école. Oui. Ils ne savaient pas comment répondre à cette problématique. On lui proposait des solutions FIDER assez coûteuses, mais qui ne répondaient pas aux attentes des enseignants. Et c'est en rencontrant les enseignants, l'ensemble des parties prenantes...
Donc les enseignants de Bar-sur-Loup, vous vous êtes dit, on va s'adresser au monde de l'école,
c'est
au monde enseignant.
Et on a développé un produit spécifique pour répondre à leurs attentes.
La suite, c'est quoi je crois que vous allez aller du côté des États-Unis aussi.
Alors, c'est ça. On a fait pour la deuxième année consécutive la participation au CES de Las Vegas, le plus grand salon d'électronique mondial. Et on a décidé de piloter un projet dès cette année sur les États-Unis qui ont pas mal de retard comparé à la France en termes de sécurisation des écoles.
Pour une fois qu'on entend ça, ça fait du bien.
C'est bon.
Les États-Unis qui ont pas mal de retard. On reste ensemble, on continue à parler sécurité dans la France Bouge.
Il est 13h18.
Europe 1.
Des oreilles pour les caméras de vidéosurveillance. C'est une entreprise française qui a développé des détecteurs intelligents pour identifier toute anomalie sonore. Ça s'appelle Sensivic et on va vous les faire découvrir. A tout de suite. Dans le France Bouge,
Cet après-midi, on parle de sécurité, sujet sensible et essentiel à l'approche des municipales. Si vous souhaitez réagir, nous dire ce que vous attendez justement des municipales en termes de sécurité, c'est simple, vous nous appelez au 3921, on vous donnera la parole, ou alors vous nous écrivez via Twitter avec le hashtag Europe 1 Elisabeth.
Et les caméras de vidéosurveillance, vous savez qu'elles n'ont pas le droit d'enregistrer les sons. Ainsi, après 10 ans de recherche, des Français de Nice ont mis en place un système de détection de sons anormaux. Et dès que le son devient un peu bizarre ou inhabituel, la caméra pivote. Bonjour Pascal de Martini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Sensivic, donc une innovation basée sur le son. Comment ça marche ?
En fait, nos détecteurs bâtissent un paysage sonore à partir de ce qu'ils écoutent en permanence sur l'endroit où ils sont placés. Et à partir de là, ils ont un modèle prédictif. Et dès l'instant où le son est radicalement différent de ce qu'il devrait être en fonction du modèle prédictif, eh bien, le détecteur envoie une notification au système de sécurité. Et c'est de cette manière que le système de sécurité va pouvoir prendre en compte cette notification et orienter automatiquement la caméra vers la source sonore qui peut être un coup de feu, un accident de voiture, un bris de vitre ou du vandalisme sur le mobilier urbain. Enfin, tout ce qui va générer en fait une onde de choc, principalement pour ce qui est en extérieur.
Donc, c'est ce que ne nous donne pas la caméra. Parce que dans la caméra de surveillance, il y a toujours un angle mort, une mauvaise direction. On ne peut pas tout avoir.
Bien sûr.
Et vous, c'est là que vous intervenez. Oui. Le détecteur capte le son.
C'est ça.
Ça le transforme en espèce de métadonnées.
Voilà. C'est exactement ça.
Et il envoie un système au signal de sécurité quand il y a un bruit anormal.
Quand il y a un bruit anormal, c'est bien comme ça que ça se passe.
Alors, mais vous avez, ça s'appelle le sound scanner, c'est ça ?
Alors ça, c'est le premier détecteur qu'on a mis au point, en fait, qui s'appelle effectivement le sound scanner. C'est vraiment celui qui est dévolu à l'urbain, c'est-à-dire à la vidéoprotection urbaine. Parce que son but, c'est de détecter un son anormal, de détecter donc un son anormal et de savoir d'où vient ce son. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir orienter une caméra vers la source sonore. C'est parce qu'on a à la fois la détection et la localisation de l'événement. Alors, sur la voie publique, on s'est vraiment concentré uniquement sur les ondes de choc. Parce que pour nous, il était important déjà de savoir d'où vient le son. Et pour ça, on a besoin d'avoir uniquement des sons très brefs. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire pivoter les caméras et à les rendre réactives, en fait, à ce qui se passe sur le domaine public. Parce que, en particulier, les caméras dôme, vous savez, les caméras qui se tournent, on regrette toujours qu'elles soient en train de regarder à droite pendant qu'un événement se passe à gauche. Et c'est grâce à un sens supplémentaire qu'on va arriver à attirer leur attention vers un événement qui est en train de se produire.
Donc, tout est analysé en temps réel.
En temps réel. Notre détecteur envoie sa notification en 200 millisecondes. Ouais. On est extrêmement rapide.
Riyad.
Ouais, non, c'est super technologique. Moi, j'aime beaucoup parce que de plus en plus, avec tous les objets qu'on a d'enregistrement, on produit de la data. Cette data, on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Ouais. Et ben là, en fait, ça réagit comme nous. C'est-à-dire qu'on s'habitue à un bruit ambiant.
C'est ça.
Là, par exemple, sur le plateau d'Europe 1, vous savez que c'est plutôt silencieux, mais quand vous êtes dans la rue, vous connaissez tous ces bruits-là. Puis tout d'un coup, il y a un bruit qui va sortir
de ça.
C'est ça qui va vous faire tourner la tête. Bah, là, c'est exactement la même chose. On l'a reproduite d'une façon.
C'est du biomimétisme un peu.
Voilà, c'est du biomimétisme. C'est exactement en tout cas, ça a l'air de marcher bien.
Oui, ça marche bien. C'est bien ça.
Votre solution, on peut l'installer partout ?
Oui, parce que ça, c'est un des principes auxquels on s'est attaché, c'est que ce soit à nous de nous rendre compatibles avec l'existant. On ne voulait pas arriver dans une ville et dire « il faut changer vos caméras, il faut changer votre système ».
On s'adapte à ce qui existe.
On a vraiment fait en sorte d'avoir plein de protocoles à disposition dans nos détecteurs, de manière à pouvoir s'adapter à l'existant, soit aux caméras, soit au système, au logiciel de sécurité qui est déjà en place.
Dora ?
Moi, je me pose une question. Quel est le bruit le plus infime que vous pouvez entendre en termes d'infraction ?
Alors, ça va dépendre de l'ambiance sonore. C'est-à-dire la nuit, quand c'est très très silencieux, on va pouvoir détecter des sons qui sont beaucoup plus faibles. Par exemple, il y a des détecteurs qui ont été installés autour de certains garages pour détecter les effractions. Un bruit de clé, mais vous savez, quand on casse une grille avec une pince. Voilà. Dans la journée, ce ne serait pas détecté, parce que de toute façon, il y a du monde autour, il y a plein de bruit. Mais la nuit, par contre, étant donné qu'il n'y a pas de bruit autour, le son va être détecté, parce que ça, c'est une des particularités aussi de nos détecteurs, c'est qu'on a une adaptation permanente et automatique à l'ambiance sonore.
Vous êtes présent où ? aujourd'hui dans toutes les villes de France?
Ah, pas encore.
Mais bientôt, vous souhaitez.
Bientôt, on l'espère. Dans le sud, puisque c'est là qu'on a démarré. Oui, c'est là qu'on a démarré. Il y a 25 communes qui sont équipées dans le sud, en PACA. Et puis, on a été sélectionnés pour un grand projet sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine, un projet qui s'appelle Yvelines Numériques, où nos détecteurs ont été sélectionnés. Là, c'est en train de commencer à s'installer. Donc voilà, on est en train de commencer
de
à s'installer un peu partout, de se développer.
Vous faites quoi des données sonores?
Alors, pour l'instant, on se contente d'envoyer des notifications. À terme, on est en train de développer une plateforme qui permettra en plus de pouvoir stocker le nombre d'incidents en fait qui sont survenus sur un emplacement, en même temps que le niveau sonore ambiant, parce que ça donne quand même une information intéressante pour la Smart City et pour la Safe City, parce que le son est assez peu exploité encore en Smart City, alors qu'il est quand même le signe de ce qui se passe en fait dans une ville.
Qu'est-ce que vous détectez le plus souvent ?
Alors ça, c'est avec le sound scanner, ce qu'on va détecter le plus souvent, nous, c'est les accidents en fait. C'est tout ce qui se passe sur la voie publique. C'est vraiment ce qu'on détecte le plus fréquemment. Puis après, il y a toute l'autre gamme, mais sur la voie publique, c'est les accidents.
Votre entreprise est à Orléans et les détecteurs sont fabriqués dans le Loiret.
Oui, tout à fait.
Vous avez combien de salariés dans votre entreprise ?
On est 5, là, au total. Et on a notre sous-traitant, qui est beaucoup plus important, lui. Parce que lui, c'est celui qui fait la matière, donc il a besoin de plus de monde. Nous, on est 5 chez nous et plus nombreux chez notre sous-traitant.
Riyad.
Ouais, une très jolie boîte. Je vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas.
Merci beaucoup.
C'est très malin.
Il y a beaucoup. Vous, les communes, vous allez les chercher comment? Vous allez leur proposer votre boîtier? Comment vous allez faire votre solution?
En fait, dans un système de sécurité implique beaucoup de monde autour de lui. Il y a les gendarmes référents, il y a les communes, il y a les bureaux d'études, il y a les installateurs. Donc nous, notre métier, c'est de tous les aborder, de leur faire connaître ce qu'on fait, de manière à ce que la demande vienne un petit peu de tout le monde, en fait.
La sécurité, donc, préoccupation majeure chez les Français. Mais dans les faits, Dora, est-ce qu'il y a plus de violence contre les personnes ?
Bah malheureusement, j'ai envie de vous dire oui. En tout cas, selon la dernière étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui date de décembre, l'année 2019 a été marquée par une forte hausse de la délinquance. Selon les chiffres d'Interstats, donc c'est le service de statistiques du ministère de l'Intérieur, plusieurs indicateurs sont en hausse. Plus 9% d'homicides, plus 12% de violences sexuelles, plus 8% de coups et blessures volontaires. Bref, la situation, elle explose quand il s'agit en plus de délinquants sur la voie publique. Dégradation, on en parlait avec les caméras, agression. Le cas de Paris est particulièrement criant. L'an dernier, les atteintes aux biens ont augmenté de 12%. Les vols à la tire ont bondi de près de 32%. Ceux commis dans le métro, de plus de 42%. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles, je vous les cite. Certains indicateurs en baisse, comme les vols de véhicules et les vols d'accessoires de véhicules.
Pascal Demartini, les cris de panique aussi, vous pouvez les détecter ?
À l'intérieur, oui, tout à fait.
Vous pouvez faire la différence ? Qu'il y a des cris qui peuvent être en fait des cris de joie, oui. Et vous pouvez les...
Alors c'est pour ça que les détecteurs qui sont sur la voie humaine, on les destine uniquement à l'intérieur des bâtiments, justement parce qu'on est dans un environnement maîtrisé. À l'extérieur, on s'est rendu compte que c'était illusoire de vouloir détecter des cris sur la voie publique. Par contre, on a des détecteurs de cris de panique et des détecteurs d'agression verbale pour l'intérieur.
On reste ensemble, on continue à parler sécurité sur Europe 1.
Il est 13h28.
Après les balises communicantes et le son, on va observer les drones qui surveillent les sites sensibles des villes. A tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. Et cette question cet après-midi, quelles sont les innovations dans les villes en termes de sécurité à l'approche des élections municipales? On en parle dans La France bouge et on attend vos réactions via Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi prendre la parole en nous appelant Elisabeth au 3921.
Oui, imaginez une usine, tiens, un site sensible et une intrusion est détectée. Un drone va alors décoller tout seul et revenir seul se poser et se recharger. C'est ça l'idée d'Azure Drone. Bonjour Jean-Marc Crépin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le président d'Azure Drone qui commercialise des drones de surveillance. Aucune intervention humaine quand vous installez un Azure Drone ?
C'est l'objectif, absolument. C'est en gros la disruption qui est apparue sur le marché depuis 3 ans qu'on travaille sur ce système. C'est l'idée de concevoir un drone parfaitement autonome. Donc ce qui signifie plus de pilote non plus, plus de diplôme de télépilote de drone. Donc les opérateurs de la sécurité d'un site peuvent être formés en une journée à l'utilisation de nos drones. Ils décollent automatiquement, font sa mission, se posent, se recharge et est prêt à repartir.
On voit là, en direct sur Europe1.fr justement là, le voilà. Système, le dispositif de drones, d'Azure Drone. Comment ça marche par exemple? Donnez-moi voilà, un exemple dans une usine ou un autre lieu sensible.
On a deux types de scénarios les plus fréquents. Mmh. Il y a le scénario qu'on appelle la levée de doute. La levée de doute, vous en avez parlé. Il y a une intrusion sur un site sensible. Vous allez avoir un détecteur de mouvement par exemple qui bouge de l'autre côté de l'usine. Immédiatement, ceci est relayé aux centrales sécurité de l'usine, par exemple, et va provoquer le décollage immédiat du drone. Donc, et en moins de 30 secondes, le drone est sur site et se positionne à l'emplacement de l'intrusion. Et là, l'opérateur de sécurité du site peut reprendre le contrôle sur la caméra, s'assurer que c'est bien un intrus ou un chien, un chevreuil ou je ne sais quoi. Appuyer sur un bouton « Retour mission », le drone revient automatiquement, se repose dans la caisse que vous venez de voir. Cette caisse se referme pour protéger le drone, il se recharge et il est prêt à repartir pour une nouvelle mission. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la levée de doute. Mm-hmm. L'autre grand scénario, c'est ce qu'on appelle la ronde périmétrique. C'est-à-dire, imaginez par exemple une base aérienne en France ou un très gros site industriel. Vous êtes obligé de faire des kilomètres à pied chaque jour pour vous assurer que les barbelés n'ont pas été coupés, qu'il n'y a pas eu d'intrusion, que tout va bien. Eh bien, vous envoyez votre drone à votre place faire des rondes régulièrement, de manière hasardeuse, totalement hasardeuse, enfin aléatoire, ou alors programmée, de manière programmée, où toutes les heures, vous voulez que le drone fasse la patrouille à la place d'un être humain, sécurisant également le flux de l'information. C'est-à-dire que là, à 2h du matin, quand il faut faire une ronde, vous êtes sûr que le drone, il décolle toujours. Oui. C'est une machine, il fait sa mission, il se repose. Donc, alors, c'est les deux grands scénarios.
Alors, dans le scénario de la levée du doute, si c'est un chevreuil, il revient sur sa base. Si c'est pas un chevreuil, si c'est un être humain cagoulé.
Il reste en assistance des équipes d'intervention. Donc, de la même manière qu'un agent de sécurité a tous ses écrans surveillant le site, il a l'écran en fait, de l'œil déporté que représente le drone, puisque c'est ni plus ni moins qu'un œil déporté, et qui va cibler donc, l'intrus et rester sur l'intrus le temps que les hommes au sol puissent intervenir ou que la police intervienne sur la situation.
Riyad.
Ouais, moi j'adore, ça me fascine. Et en plus, j'adore les drones. Je suis un vrai gosse avec ça. Donc, je m'amuse toujours avec mon drone. Maintenant, je sais que j'ai plus le droit de le faire en ville. Il faut que j'aille très, très loin. Vous avez réussi à franchir toutes ces barrières un peu législatives, justement, même sur des sites qui peuvent être à moins de 150 mètres d'une foule, etc. C'est quelque chose que vous avez réussi à remplir, vous?
Alors, c'est un enjeu, effectivement, absolument majeur du développement de ce marché qui, aujourd'hui, n'existe pas. On est très, très novateurs sur le sujet. Donc, la réglementation est un vrai frein. Mais j'allais dire, d'une certaine manière, heureusement puisqu'on fait attention quand même à la vie privée des gens, il y a la CNIL qui s'intéresse au sujet. Avec notre solution, on est la première société à avoir eu l'accord de la Direction Générale de l'Aviation Civile pour être homologuée dans ce qu'on appelle des scénarios de vol. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se trouve sur des sites sensibles, des zones industrielles, ça peut être des centrales nucléaires, enfin, tout site sensible autour des villes, puisque nous n'œuvrons pas dans ce qu'on appelle une zone peuplée. Dit autrement, pour voler sur Paris demain, à aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a un aspect sociétal très important, la société doit évoluer. Il y a un aspect réglementaire, mais évidemment, il y a un aspect sécuritaire. Tous nos systèmes sont triplexés, on a des parachutes sur notre drone qui permettent d'éviter les impacts sur des hommes ou des femmes au sol. Et donc, le monde tend à ouvrir la ville aux drones, mais à aujourd'hui, elle est plutôt réservée encore la ville aux autorités, aux forces de police, gendarmerie. On peut citer Notre-Dame, par exemple. Notre-Dame a été les pompiers ont été énormément aidés par des drones sur leur intervention. Mais donc, la première phase, je dirais, c'est le déploiement sur des sites industriels qui sont plus naturels ou plus facilement abordables pour le début de cette technologie.
Il a une autonomie de combien de minutes ou combien d'heures
On peut aller jusque 30 à 40 minutes d'autonomie, mais assez paradoxalement, ce n'est pas le point important, puisque une mission, en gros, en moyenne, dure entre 5 et 7 minutes. Vous êtes allé sur site, vous voyez le drone.
En fait, ce sont des yeux. Donc, une fois qu'il a vu, il prévient s'il y a danger ou si le doute est levé.
C'est ça.
Dora ?
Non, moi, je me demandais si on nous l'enviait, cette technologie, parce que ça paraît formidable comme ça. Est-ce que ça se fait ailleurs ? On parlait des États-Unis tout à l'heure.
Alors, ça se fait. On est très peu au monde aujourd'hui à être à ce niveau. On considère chez nous qu'on est 3 à 4 sociétés dans le monde, nos concurrents étant essentiellement israéliens ou américains. Et c'est pour ça que chez Azure Drone, on a voulu vraiment monter un projet partant de la France, du constat que la France était le deuxième pays aéronautique au monde, qu'on n'avait pas de grands leaders face à ces gens qui sont assez puissants en technologie. Israël est un pays qui investit beaucoup sur la techno. Et donc, notre projet est totalement français. On a 55 ingénieurs qui sont ingénieurs hommes et femmes qui sont entre Bordeaux et Paris. Et aujourd'hui, on essaye de capter ce marché en disant qu'on est la seule solution européenne sur ce segment de marché. Il faut être précis. On parlait de focus tout à l'heure. Il faut prendre un focus. On s'y tient depuis 3 ans avec notre solution Skytech et on tient.
Comment sont envoyées les informations recueillies ?
Alors de la transmission data directement. Et alors après, ça se passe entre le drone et la station sol que vous avez vue à l'écran.
Je vous encourage à regarder sur europe1.fr parce que c'est très explicite.
Absolument. Et beaucoup d'intelligence se trouve dans la station elle-même. Donc, faut pas penser que tout est dans le drone. Le drone est un œil, en fait. Voilà, est un œil déporté.
Je m'adresse à l'entrepreneur que vous êtes, puisque à l'origine, Azure Drone, c'était une toute petite société qui avait un peu de mal à trouver son marché. Et vous êtes arrivé.
Alors, elle avait beaucoup de mal, très honnêtement parlant, comme des centaines de
Bien
sociétés
sûr,
dans le monde du drone
en
France, puisqu'on était dans un secteur très nouveau, dans le drone professionnel, où on allait de petites thermographies de façade à petits jobs, je dirais, et en estimant que le marché allait s'ouvrir, et puis il ne s'ouvrait jamais, finalement. Donc, c'est comme ça que, finalement, en 2016, j'ai décidé, par augmentation de capital successive, de prendre le contrôle d'Azure Drone et de monter avec un investisseur, en fait, un vrai projet pour créer un leader français, mais pour ça, il fallait des hommes et des femmes de talent, et on a tout ce qu'il faut en France, du financement et puis un focus. Donc, on a choisi la protection pour être vraiment dans le cœur du sujet par rapport à des enjeux chinois ou autres aujourd'hui.
La protection. On reste ensemble, on continue à parler sécurité aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38. Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Vous aussi, la sécurité est-elle prioritaire dans votre ville ? Que souhaitez-vous améliorer pour vous sentir mieux au quotidien ? Écrivez-nous sur Twitter, Céline.
Oui, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921. Dans la France bouge cet après-midi, on parle des innovations dans les villes à l'approche des municipales et on en parle, Elisabeth Assayag, avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Riyad Boulanoir, le coach du jour, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1 et nos invités entrepreneurs. Nous sommes avec Nicolas Demarché, le cofondateur de MyKeeper, c'est une solution d'alerte pour le grand public et pour les administrations. Pascal Demartini, la cofondatrice de la start-up Sensivic, concepteur et fabricant de détecteurs sonore pour la sécurité, et avec Jean-Marc Crépin, le président fondateur d'Azure Drone, qui commercialise des drones de surveillance, notamment pour les sites sensibles. Alors, on l'a vu là depuis le début de ce dossier avec vous, les drones, du son avec les caméras. Dans quelle mesure vos trois solutions sont des solutions liées à des avancées technologiques ? En quoi ces solutions sont capables d'être intégrées dans des dispositifs de sécurité plus traditionnels, dans des dispositifs de sécurité de police municipale ou de gendarmerie ? Qui veut répondre ?
Pour ce qui est du drone, plus précisément, en fait, effectivement, on commercialise pas un drone, on commercialise un service en fait qui est une fiabilité et une ponctualité, une mise à disposition régulière et fiable pour des gens qui travaillent dans la sécurité. Donc une de nos premières préoccupations, ça a été justement de pouvoir nous interfacer facilement avec les systèmes de nos clients.
Donc vos clients, ce sont les gendarmeries ?
Prenons. Alors ça peut, mais ça peut également être des groupes qui sont sécurisés par les grandes de ce monde, les Securitas, le groupe Onet, les fiduciales, les grandes sociétés de sécurité qui travaillent toutes avec des logiciels, ce qu'on appelle des Video Management Systems, des VMS. Chez Azure Drone, on a développé ce qu'on appelle nos plugins et donc on est interfaçable avec ces grands logiciels. Donc globalement, on arrive chez un client qui est déjà équipé, qui a déjà des forces de sécurité, déjà des opérateurs avec leurs écrans de contrôle pour leur X site en France. On vient, on plug, on branche directement notre système sur le leur, c'est simple, et on rajoute un seul écran. Donc notre manière de répondre pour des sites équipés, c'est celle-là. Donc on s'adapte aux sites traditionnels déjà équipés, mais également pour les nouveaux sites, on va travailler sur des solutions innovantes comme le radar, puisqu'on part de zéro à ce moment-là, donc on va directement regarder un cahier des charges avec les clients qui souhaitent innover sur le sujet.
Et compte tenu de la menace terroriste, vous travaillez avec des ministères ?
Très bonne question.
Oui.
J'étais jeudi dernier Nicolas au ministère des collectivités territoriales et l'après-midi au ministère de l'Éducation nationale. Donc oui, il faut travailler avec les ministères, il faut faire reconnaître nos innovations par de haut pour qu'ensuite ça coule vers le bas. Et je voulais également rebondir sur ce que vous avez dit juste avant. Pour nous, ce sont des parties prenantes. Moi, mon client chez MyKeeper, c'est la mairie. Mais on doit savoir travailler avec les parties prenantes et il faut savoir s'interfacer avec leur système existant. C'est à nous de nous adapter aux forces de l'ordre. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a choisi la transmission d'alerte via SMS, parce que tout le monde est déjà équipé d'un téléphone portable, surtout pour les forces de l'ordre, téléphone portable professionnel.
Riyad ?
Ouais, moi je me demande pourquoi Amazon me livrera mes colis par drone avant que les flics puissent voir s'il se passe quelque chose chez moi en drone. C'est quoi le problème en France?
Le vrai problème, c'est qu'on va vers... Il y a une espèce de terreur généralisée, mais alors qui est sociétale et probablement très française également, sur la vie privée. Alors qu'on peut encore une fois voir comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Je ne suis pas un défenseur ultime du drone dans tous ses états. Enfin, je suis le premier à me faire embêter par un drone grand public qui peut se balader au-dessus de ma tête. Mmh. Mais je pense qu'on est un pays effectivement qui aime bien la réglementation, qui veut faire les choses étape par étape. Je ne crois pas à titre personnel à la livraison de pizza demain par drone, parce que quand on aura 1 million de drones au-dessus de Paris pour livrer 1 million de pizzas à 19h15 le soir, ça ne marchera pas. En revanche, je pense qu'effectivement, on est sur des voies qui aujourd'hui sont reprises par l'Europe avec des évolutions réglementaires qui finalement sont nécessairement en retard de phase. Vous ne pouvez pas être en avance de phase réglementairement sur des sujets d'innovation technologique comme ceux qui sont présentés aujourd'hui, sur les 3 solutions d'ailleurs à mon avis. Puisqu'elles touchent toutes de près ou de loin à notre sécurité personnelle. On veut de la sécurité, mais on veut garder notre liberté. Oui. Et en même temps, on accepte la réglementation, mais on n'en veut pas trop. Donc il y a une espèce de schizophrénie collective qui va se résoudre tout doucement par une adéquation entre les réglementations européennes et puis est-ce qu'on sait faire.
Dora, vous aviez une question.
Non, moi je vous écoute et je me disais, quelle est la place de l'humain dans tout ça? Est-ce qu'on aura toujours besoin de l'humain? Parce qu'on voit beaucoup de technologies qui finalement sont alliées.
Ce sera complémentaire.
En fait, on est là pour aider l'humain. C'est vraiment ce à quoi on est destiné, c'est d'apporter une information juste au bon moment, de manière à ce que les actions puissent être entreprises par les humains, justement.
Le drone, c'est l'œil de l'humain. C'est ça. Combien elles coûtent vos solutions? Parce qu'on là, on a compris comment ça marchait. Quel est le prix pour MyKeeper, Nicolas Demarchais?
Alors nous, la balise Athéna, on la commercialise entre 480€ hors taxes et 600€ hors taxes, tout inclus pour 36 mois, logiciel, installation du dispositif pour une école, par balise, attention. Et on vient de lancer une nouvelle solution grand public qui est commercialisée à partir de 10€ seulement.
Donc pour 10€, on peut se sentir protégé. Pascal Demartini, vous, ça coûte combien sonore?
Oui, on a un modèle par quantité, en fait, puisqu'en général, on n'installe pas un détecteur dans une ville. Donc on a un prix de départ à l'unité qui est aux alentours de 2000€ pour le détecteur extérieur qui localise et 600€ à peu près pour les détecteurs qu'on met à l'intérieur.
Et Jean-Marc Crépin, pour l'Azure Drone.
La solution Skytech d'Azure Drone n'a pas de coût, en fait. Oui. Elle a juste une valeur énorme pour nos clients.
C'est le directeur général.
Elle est faite sur mesure. Donc, en fonction des typologies et des clients, on va dire qu'on est entre 100 et 200 000€ la solution complète pour la mise en œuvre.
En tout cas, merci à tous les trois d'être venus nous présenter vos innovations autour de la sécurité, des innovations très importantes qui vont améliorer notre quotidien. Et à noter d'ailleurs ce soir dans le 18-20 d'Europe 1, Sébastien Krebs sera en direct de Chanteloup-les-Vignes et il sera aussi question de sécurité, du vivre ensemble lors de cette première délocalisation avant les municipales.
Il est 13h46.
Europe 1.
C'est l'histoire d'une initiative qui n'aurait jamais dû marcher et pourtant 20% de croissance, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ça avec des couches bio couleur marron. A tout de suite.
Europe 1.
Et c'est l'heure à présent, Elisabeth Assayag, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Bonjour Céline Augusto.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Love and Green. Alors, je disais tout à l'heure, en lançant le sujet, vous arrivez à faire 20% de croissance, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on le voit en direct sur europe1.fr. Tout ça avec des couches bio qui sont couleur marron. Voilà. Comment vous avez fait?
En fait, on a créé Love and Green en 2011. Avec une envie, une volonté et je dirais même un rêve, c'est celui de réinventer l'hygiène pour bébés, notamment les couches bébés, qui étaient, à l'époque où on s'est lancé, surdominées par du plastique et de la pétrochimie.
Oui, par les Pampers, les Huggies.
Toutes ces marques en fait, qui proposent des couches à plus de 80% de matière plastique et synthétique. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à proposer une alternative avec des matières naturelles. Et cette alternative avec des matières naturelles, il faut qu'on cherche pour aller jusqu'à notre rêve ultime qui serait un jour la couche compostable, entièrement naturelle. On est à la moitié du chemin et on va continuer à travailler en R&D pour inventer des nouvelles matières. Parce que les matières naturelles n'existent pas toutes encore. On en a encore beaucoup à créer. On en a créé beaucoup dans les dernières années. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour faire en sorte que ce produit bannisse complètement le plastique et la pétrochimie.
Dans les histoires d'entrepreneuriat, il y a aussi des histoires personnelles. La première couche et votre fille naissent en même temps, finalement.
À 3 mois d'intervalle.
On est en 2011, c'est
tout
ça.
Tout à fait.
Et elle a de quoi de si spécial, la couche que vous avez mise au point? C'est au moment où vous êtes enceinte, que vous vous êtes dit, je vais changer les choses.
Oui, parce que avec mon mari, on attend notre première petite fille. On est persuadé, on est assez en avance d'ailleurs, on est persuadé que la consommation est en train de changer, que les gens ont envie de produits plus naturels, de produits plus sains et aussi de produits plus simples et plus proches d'eux. On ressent ça, c'est une intuition qu'on a au début. Et effectivement, on attend notre premier bébé et on est animé comme de nombreux futurs parents et parents par cette envie d'offrir le meilleur à notre bébé. Et pour nous, rien n'était trop beau pour les petites fesses de notre fille. Et ça nous a beaucoup motivés pour essayer de bannir le plastique, la pétrochimie des couches bébés et notamment ce qui est en contact avec la peau pour éviter le plastique issu du pétrole et mettre des matières issues du végétal.
Donc, vous avez remplacé les fils en plastique par des fils naturels. Hein. Ils sont quoi, en amidon de maïs ?
C'est de l'amidon végétal qui vient du maïs, de la betterave, de la canne à sucre, de la pomme de terre. Tout ce qui vient du végétal et qui a de l'amidon, on peut l'utiliser pour faire des films qui remplacent le plastique issu du pétrole.
Et pour laisser le bébé au sec, vous avez aussi remplacé les fameuses microbilles.
Dans toutes les couches jetables, il y a des microbilles absorbantes qui permettent de capter et de garder le liquide pour maintenir le bébé au sec. Et ces microbilles absorbantes étaient jusqu'il y a encore 3 mois, toutes issues de la pétrochimie. Et nous avons été les premiers au monde, à notre connaissance, à réussir à substituer 50% de ces microbilles absorbantes avec des microbilles d'origine végétale. C'est par exemple de l'huile de colza qui va être utilisée, sans modifier la performance d'absorption des microbilles. Parce qu'à la fin, c'est formidable d'avoir une couche la plus naturelle possible, mais ce qu'il faut, c'est qu'elle absorbe et qu'elle tienne tout autant qu'une couche classique.
Alors, il y a plusieurs étapes dans votre succès, parce que vous l'avez dit, vous êtes dans un univers concurrentiel. Il y a Pampers, il y a Huggies, et votre étoile s'illumine en 2013 quand Huggies décide de se retirer du marché de l'Europe de l'Ouest. Là, vous avez plein de distributeurs qui vous disent « Revenez, ça nous intéresse ce que vous nous avez proposé il y a quelques mois ».
Alors, ils disent presque ça, mais effectivement, c'est une première vraie opportunité. C'est-à-dire que ce marché des couches assez peu concurrentiel, qui était dominé par deux gros acteurs américains, deux grosses multinationales, se retrouve avec un seul. Et c'est ce qui nous donne un appel d'air et qui nous permet effectivement de rentrer en grande distribution, puisque nous, dès le début, dès 2011, dès la création de la marque, on veut parler au plus grand nombre, on veut vendre des couches écologiques à tous les parents. Notre rêve, c'est qu'une majorité des bébés qui naissent en France n'aient plus de plastique en contact avec les fesses. On a encore du chemin, mais c'est effectivement notre ambition. Et donc, on veut passer par le mass market, la grande distribution. Et c'est effectivement en 2013 qu'on arrive à accéder aux enseignes centralisées. Puisque
Vous avez eu de la chance parce que Guise s'est retiré aussi.
Je pense qu'on a eu à la fois de la chance parce qu'on y a eu l'opportunité.
Bon produit, bien sûr.
Et puis surtout, on est arrivé avec un produit très différent par rapport à ce qui existait sur ce marché. Proposer de l'écologie dans la couche, ça n'existait pas. On a été les premiers, on a été les pionniers. Ça a été dur, ça a été long, mais on a été les seuls à proposer cette alternative. Et c'est vrai que la sortie de Guise du marché a laissé de la place aussi pour des acteurs qui faisaient autre chose.
Voilà. Riyad.
Ouais, non, j'étais en train d'essayer d'analyser les raisons du succès. C'est vrai qu'il y a l'antériorité déjà, 2011, c'était tôt pour parler des couches bio, recyclage. Alors maintenant, j'imagine que vous avez pléthore de concurrents. Mais à l'époque, donc, c'est aussi très malin d'avoir été attaqué tout de suite la grande distribution et pas chercher à être sélectif sur votre réseau de distribution. Ça permet de toucher le plus grand nombre. J'ai une question, pourquoi marron ? Le côté marron, quand même. Parce que bon, il y a un côté, on ne sait jamais si elle est propre ou elle n'est pas propre maintenant.
C'est ça. En fait, ça, c'est notre grande innovation. On a lancé il y a 3 mois une nouvelle marque de couches qui s'appelle Change Now, qui est dédiée au réseau bio, qui est aujourd'hui distribuée notamment sur Internet. Et on a décidé d'aller encore plus loin sur la naturalité du produit et de sauter l'étape de blanchiment de la cellulose. Donc la cellulose, c'est un des composants majeurs d'une couche. Ça vient du bois. Le bois, c'est pas blanc. Et donc, effectivement, il y a un procédé qui est toujours chimique de blanchiment. Alors, on peut blanchir, et c'est l'écrasante majorité, c'est 95% de la cellulose, elle est blanchie au dioxyde de chlore. Donc, les dérivés chlorés, c'est un vrai problème pour la santé et pour l'environnement. Il y a 5% de la cellulose qui est blanchie à l'oxygène, c'est le cas de l'Ovengreen, qui blanchit à l'oxygène, où là, il n'y a pas de problème de santé, mais ça reste un procédé qu'on a décidé cette fois-ci de sauter avec cette marque Change Now. Et donc, on ne blanchit plus la cellulose. Et c'est un procédé qui nous permet d'avoir une cellulose à la couleur naturelle. La couleur naturelle du bois, c'est beige, c'est marron. Mais effectivement, il nous semble que c'est intéressant.
Elle n'est pas blanchie finalement, la
cellulose. Elle n'est pas blanchie et ça permet d'avoir une couche brute, une couche encore plus naturelle et d'aller encore plus loin dans le fait d'éviter les processus de la pétrochimie.
Et vous avez élargi aussi votre gamme avec des cosmétiques pour bébés et qui sont bio, c'est important de le préciser. Vous ne faites plus que des couches, vous faites aussi du bio-liniment. Vous faites aussi des serviettes hygiéniques. Voilà, vous êtes totalement vous avez élargi votre gamme.
On a essayé d'élargir la gamme en apportant toujours quelque chose d'unique et qui n'existait pas sur le marché. Vous parlez de nos cosmétiques bio pour bébés. Ben, nos cosmétiques, ils sont sans parfum et sans sulfate. C'est quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. C'est hyper important de mettre du parfum sur la peau d'un bébé, dans son gel douche, dans sa crème hydratante, dans son eau micellaire. Nous, on considère que le parfum ne sert à rien, à part amener potentiellement des allergènes. Et donc, on a banni le parfum. Pareil, on a banni les sulfates. On a été les premiers à réussir à faire une formule lavante sans sulfate qui mousse. Parce que c'est important que ça mousse. Et c'est pareil et donc, pour les protections féminines. On est venu avec quelque chose d'alternatif qui permet vraiment d'apporter une réponse naturelle.
Sans parfum, sans sulfate. Merci. C'est la composition de vos produits cosmétiques pour bébés. Merci Céline Augusto d'avoir su nous parler, de nous présenter Love and Green. Love and Green, c'est l'entreprise qui va bien. C'est la fin de votre émission. Merci Riyad Boulanoir d'avoir joué le rôle du coach.
Merci,
vous êtes cofondateur du compte Nickel, le fondateur de la méthode Boulanoir. Merci Dora.
À demain.
À demain, Céline.